Madame, Monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». L'intelligence artificielle, IA, comme on l'appelle, soulève à la fois des espoirs et des craintes dans son application au monde de la santé. Si elle est encore l'objet de fantasmes, nous vivons une prodigieuse révolution dont les perspectives sont globalement très positives. Cependant, des risques réels existent pour garder la maîtrise de cet outil. C'est ce que j'ai relevé d'un écrit du docteur Denis Strubel que nous recevons une nouvelle fois dans Votre santé un trésor. En effet, Denis Strubel nous avait déjà parlé de la maladie d'Alzheimer lors de précédentes émissions. Bonjour à vous, docteur Strubel, et bienvenue parmi nous.
Bonjour, docteur Jaume.
Pouvez-vous vous présenter, bien que nous vous connaissons déjà?
Alors, je suis de formation médecin, neurogériatre, et j'ai exercé mon activité au CHU de Nîmes comme chef de service en gérontologie. Je suis maintenant médecin retraité, mais engagé dans différentes causes associatives qui sont du reste du domaine de la santé ou en marge.
Vous êtes une retraitée active, comme il y en a de plus en plus.
On peut dire ça, oui.
Alors, votre formation, pour préciser, vous êtes neurologue?
Je suis neurologue au départ.
Neurologue pour tout le monde, si j'ose dire.
Oui.
Et après, vous êtes spécialisée en gérontologie.
Je suis passée de la neurologie à la gériatrie, mais ça s'est fait au CHU de Strasbourg.
Ouais.
Et donc, j'ai la discipline, enfin la spécialité de gériatrie, de médecine gériatrique.
Voilà. Et est-ce que les personnes âgées ont une neuropathologie différente? Évidemment, avec les démences, etc., bien évidemment. Mais dans le reste de la neurologie,
il y a des spécificités. Par exemple, dans le domaine de l'épilepsie, c'est un peu particulier. Dans le domaine, il y a beaucoup la pathologie vasculaire. Il y a des pathologies neurologiques qu'on ne voit pas, bien sûr, chez les personnes âgées.
Alors, je pourrais vous inviter pour une émission, la neurologie chez la personne âgée.
Si vous voulez.
Alors, comment êtes-vous venu à vous intéresser à l'IA, ou à l'intelligence artificielle? Et pouvez-vous nous dire simplement, qu'est-ce que l'IA?
Alors, je ne prétends pas avoir de compétences spécifiques poussées dans ce domaine-là. La raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est d'abord que je continue à suivre l'évolution de la médecine et que c'est vrai que ce champ de l'IA s'est largement ouvert et apporte des choses extraordinaires.
Je vous arrête un instant pour préciser pour les auditeurs. Vous faites plus que vous intéressez parce que vous continuez à faire des formations, à être active en médecine.
Je continue à faire la formation, sur l'intelligence artificielle.
Non, pas sur l'intelligence artificielle.
Mais j'en parle.
Voilà, mais vous faites des formations, vous continuez à enseigner.
Je fais des missions pour l'ARS, les missions d'évaluation des EHPAD.
D'accord, donc c'est très... Voilà. Vous ça, êtes dans, une, au cœur du sujet. Quoi. Voilà. Alors revenons à l'IA.
Mon intérêt pour le sujet, c'est l'évolution de la médecine. Et puis peut-être le deuxième intérêt, c'est que je suis très branchée sur tout ce qui est éthique médicale. Et je participe à des comités éthiques. Et l'intelligence artificielle interpelle à ce niveau-là,
parce que
il y a des inquiétudes. Beaucoup de gens ont peur de perdre, que l'homme perde la maîtrise de cette évolution, de cette c'est les deux raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce sujet.
Les auditeurs sont curieux. Vous parlez de comité d'éthique. Vous pouvez nous en citer?
Alors, je fais partie du comité éthique de l'association France Alzheimer.
D'accord.
Au niveau national.
Voilà. Oui, parce que vous êtes quand même très actif dans l'association France Alzheimer. Donc, je vais insister parce qu'il y a trois émissions que les éditeurs peuvent écouter sur le podcast qu'on avait fait sur l'Alzheimer. Donc, on a présenté l'association.
Je continue à être très actif dans ce sujet-là. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, il faut imaginer, la définition... Avant de parler de l'application à la médecine, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qu'on fabrique dans un ordinateur et qui vont être capables...
Vous pouvez nous
C'est le traitement, c'est le langage, de l'informatique. Voilà. Et qui vise à copier l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on va, on fabrique des outils qui sont capables de raisonner, de créer, de simuler l'intelligence humaine. Ah, bon, ils ne sont pas tout à fait équivalents
vous,
à l'heure actuelle.
Vous qui êtes neurologue, est-ce que vous pensez que l'ordinateur, la machine, y est arrivé ou va y arriver?
Ben, elle continue à se perfectionner. Alors pour l'instant, elle n'a pas, elle a des capacités intellectuelles et bon, l'élément qui est aussi propre à l'intelligence artificielle, c'est que parce qu'on a ce qu'on appelle le machine learning, la machine est alimentée par énormément de données, les big data, et elle continue à s'améliorer. C'est-à-dire, vous soumettez un problème.
Elle s'auto-améliore, oui.
Elle s'auto-améliore. Vous lui soumettez un problème. Au départ, elle peut avoir des difficultés, elle va ramer. Mais si elle continue à être alimentée et elle s'auto-analyse, si vous voulez, elle va être de plus en plus performante.
Oui,
c'est propre à l'intelligence.
Je reprends ma question parce qu'elle fait pour moi être importante. Vous êtes neurologue, donc la neurologie, c'est le cerveau, le fonctionnement du cerveau, etc., la cognition. Votre sentiment de neurologue par rapport à l'IA?
Bon, il y a des similitudes, mais bon, ce qui manque pour l'instant, hein, c'est, heureusement, c'est encore le propre de l'homme, c'est d'avoir une conscience, d'avoir des émotions, une conscience. La machine ne l'a pas à l'heure actuelle. Hein. Elle est capable de simuler...
Quelque part, vous nous rassurez.
Elle est capable de simuler des émotions. Vous avez des robots sociaux qui sont capables de simuler, mais ils ne ressentent rien.
Alors, pour une petite histoire, j'ai fait bugger l'intelligence artificielle en la provoquant jusqu'à un moment donné, il n'arrive pas.
Oui.
Là, ça n'arrive pas. Quoi. Quand vraiment on veut perturber, on peut y arriver, mais en fait, c'est une histoire personnelle. Donc, reprenons l'intelligence artificielle et sa façon de fonctionner. Quels sont les algorithmes?
Oui, donc je vous l'ai défini de manière un peu générale, je n'ai pas le vocabulaire, il n'y a pas lieu d'utiliser le vocabulaire qu'utilisent les spécialistes, mais appliqué à la médecine, cette intelligence artificielle, elle va reposer, c'est la force de son pouvoir dans le domaine de la santé, c'est qu'elle est alimentée par des données médicales qui sont issues de dossiers médicaux qui rentrent et que la machine va traiter. Et quand elle traite des chiffres immenses de données, elle est capable de sortir des sortes de règles, de faire apparaître que, par exemple, il y a un lien entre tel événement et tel événement. Voilà.
D'accord. Alors, oui... Parce que c'est important, en fait, moi je l'ai travaillé quand même un petit peu. J'essaie toujours de faire le naïf, mais bon, et pour faire le naïf, il faut savoir, parce que sinon on fait un faux naïf. Au niveau de la radiologie ou de la napate, c'est quand même extraordinaire, parce que les radiologues de la napate ont leur expérience et qu'ils peuvent partager avec des consoeurs et des confrères. Tandis que là, quand on met de la napate dans une machine, comme on dit, là, elle va traiter des milliers.
Elle va absorber
beaucoup de choses. Elle sort des choses que l'humain ne pouvait pas sortir.
Oui, ce qui fait que c'est un des domaines majeurs d'application.
Positif.
Tout à fait, c'est l'aide au diagnostic.
Voilà, c'est l'aide au diagnostic.
L'aide au diagnostic, que ce soit dans le domaine de l'imagerie médicale, des images d'IRM, la machine va repérer, va détecter des lésions et va les identifier un peu mieux que l'œil humain.
D'accord.
Donc, ça va être une aide pour le radiologue. Hein. Ça ne remplace pas le radiologue. Attention. De même, dans l'analyse de coupes anatomopathologiques, des prélèvements qu'on fait sur des organes malades, la machine va faire gagner un temps fou au médecin.
Le protocole que j'ai vu, moi, c'est on met l'image ou l'analyser dans la machine et sur, mettons, trois hypothèses, X hypothèses diagnostiques. Et à ce moment-là, le radiologue ou l'anatomopathologique voit la clinique, donc ça revient quand même à l'adhésion, revient à l'humain. Alors, vous avez écrit « La médecine du futur sera donc prédictive, préventive, personnalisée et participative ». Qu'entendez-vous par là?
Alors, cette expression n'est pas de moi,
Vous l'avez écrit, parce que
ça se dit partout maintenant. C'est les 4 P de la médecine du futur. parce que on est, disons, le fil conducteur, c'est que à l'heure actuelle, la médecine, elle répare. Hein, elle répare des organes malades, elle empêche les gens de mourir, etc. L'étape suivante, ça va être, on attendra de la médecine qu'elle nous empêche de devenir malade. Hein, d'où l'aspect prédictif, préventif. Alors, la différence entre prédictif et préventif, parce qu'on est un peu dans le même champ, prédictif, c'est... on est en capacité actuellement de faire beaucoup, de manière presque banale, le génome d'une personne, aller déterminer l'analyse génétique d'une personne. Et à partir de là, on sait que la présence de tel gène prédit
telle ou telle pathologie,
telle maladie, augmente le risque de telle autre, etc. Donc on peut établir une sorte de carte prédictive des maladies d'une personne. Et à partir de là, vous pouvez faire de la prévention. Si une personne est prédestinée à faire un cancer du sein, par exemple, ben on va renforcer la détection et on va faire un diagnostic, on va faire diagnostiquer des lésions, voilà, des diagnostics beaucoup plus précoces.
Pour reformuler, dans notre ADN, alors tout le monde sait ce que c'est que l'ADN, mais en fait personne ne sait ce que l'ADN, mais en fait ce sont nos gènes, ce sont nos structures intimes. Actuellement, on peut savoir, suivant les gènes, si les gens vont pouvoir développer telle ou telle pathologie, par exemple le cancer du sein. Donc, en sachant ça, on va les protéger, on va leur dire, vous ne mettez pas trop au soleil, faites ceci, faites cela, pour éviter, empêcher, on évite ou on retarde, ou on est plus sensible et on détecte plus facilement.
Alors, ce n'est pas fait à l'heure actuelle, précisons-le.
Oui, mais ça devrait l'être.
Ça pourrait le devenir progressivement. Et alors le terme personnalisé, c'est vrai qu'on nous a appris à appliquer des schémas comme médecin, vous l'avez bien vécu, telle pathologie se soigne de telle façon. Voilà. Mais là, on va beaucoup plus personnaliser parce qu'on va intégrer à la fois, et ça là, l'IA peut aider à ça, intégrer les antécédents familiaux, intégrer les autres pathologies de la personne, son histoire médicale, si elle a déjà fait des incidents avec tel médicament, etc. Donc on va beaucoup plus personnaliser les soins. Et participative, le dernier P, c'est que nous avons affaire à un public beaucoup mieux informé sur les maladies et beaucoup plus exigeant.
Oui, hein, c'est ça, l'exigence,
qui va demander non seulement, bien sûr, la meilleure qualité des soins, ça c'est son droit, mais aussi de participer aux décisions.
Oui.
Qu'on lui explique bien et qu'il puisse participer aux décisions.
Oui, on le voit avec l'éducation thérapeutique. Maintenant, il y a des patients experts. Donc moi, je suis formé, je suis diplômé en éducation thérapeutique. Très intéressant parce que les patients experts ont une compétence que les soignants, médecins ou non, quoi, non, pas forcément. Ouais. Donc, de allier les deux, c'est déjà bien. Alors, éducation thérapeutique, moi, j'avais travaillé dessus, donc je me suis formé, je suis diplômé. Mais malheureusement, dans les faits, ça se fait peu, sauf en institution. Alors, il y a des pathologies comme le diabète, etc.
Alors,
c'est très bien.
Vous parlez de maladie d'Alzheimer, nous le faisons
voilà,
à France Alzheimer.
Je sais que vous le faites, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que vous en avez parlé dans
l'émission. Pour les personnes qui sont formées.
Voilà, mais c'est quand même, c'est que pour... Alors, c'est pour des pathologies chroniques, il faut le dire, mais c'est quand même un peu confidentiel, quoi. Enfin, je veux dire, on a
C'est un champ qui doit se développer, indiscutablement.
Alors, que peut-on attendre de l'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic? Alors, on l'a évoqué en radiologie, en anapath, mais peut-être ça peut aller plus loin.
Oui, un champ qui est très difficile. Actuellement, la médecine est extrêmement compliquée et un médecin lambda ne peut pas connaître toutes les pathologies. Et l'IA, par exemple, peut être d'une aide extrêmement intéressante pour les diagnostics de maladies rares.
D'accord.
Oui, parce par que exemple,
ou maladie orpheline, ou maladie rare.
Oui, maladie orpheline. Un autre exemple, alors il y a des publications sans arrêt qui sortent. Un autre exemple, c'est le diagnostic des déficits cognitifs débutants quand on passe de la...
Alors, déficit cognitif, expliquez-nous.
Oui, c'est une atteinte des fonctions intellectuelles, comme dans les maladies neurodégénératives.
Voilà, ce qu'on appelait les démences, les débuts de démence et autre chose.
Au début, on peut avoir du mal à savoir est-ce que la personne est encore dans le champ de la normalité ou est-ce qu'on a un début de pathologie. D'accord. Et on a tout intérêt maintenant à faire des diagnostics précoces. Et ça, l'IA peut aussi nous aider à ça.
Donc, c'est très
bien. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus.
Donc, il y a du positif.
Et du positif, mais il faut que
le médecin
reste le maître.
Oui, il faut que l'humain reste toujours le maître.
Ce n'est pas la machine qui fait le diagnostic.
En toute circonstance.
L'IA aide au diagnostic.
Mais le téléphone portable est un excellent outil, mais il ne faut pas au téléphone n'importe quoi. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Denis Strubel qui nous parle de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, état des lieux et perspectives. Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'aide thérapeutique médicale avec l'intelligence artificielle.
On est tout à fait dans le sens de ce qu'on a évoqué tout à l'heure de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle intègre toutes les données personnelles d'une personne donnée, comme ses antécédents familiaux, etc., elle est capable, compte tenu de tout ce qu'elle sait, qu'elle a intégré, de dire que pour telle personne, le meilleur traitement sera celui-ci. Et le grand champ d'application, c'est la cancérologie. D'accord. En cancérologie, vous avez des thérapeutiques, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie. Le domaine de la chimiothérapie a énormément évolué, évolue sans arrêt. Et l'IA peut beaucoup aider au choix thérapeutique et même à la chronologie des traitements. Donc là, c'est aussi une assistance aux médecins et un gain de temps.
Alors, pour apporter un peu de mon expérience, j'ai travaillé avec des cancérologues en prise en charge de la douleur et en soins palliatifs, je m'occupais de leurs patients. Eux aussi, on s'en occupait en équipe. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils ont une démarche particulière. Quand on va voir son médecin, on a une angine, mais il fait une ordonnance, c'est clac, clac, clac. C'est ce qu'on appelle en jargon médical la médecine tiroir. Eux, non. Ils ont une vision différente des autres médecins. Les médecins, vous allez voir un chirurgien, mais il pose l'indication, il ne pose pas l'indication. Vous allez voir votre médecin généraliste, il fait une ordonnance. Eux, non, ils ne travaillent pas comme ça. C'est-à-dire d'abord, ils travaillent en groupe et par staff. Oui. Et par protocole, de plus en plus, qui évolue.
Ils changent sans arrêt.
Oui, ils changent sans arrêt. Donc, il faut quand même que les auditeurs le savent, parce que nous, on le sait, mais les auditeurs ne le savent pas. Un cancérologue ne travaille pas seul, il travaille en groupe, en équipe, avec les chirurgiens qui font le diagnostic du cancer, et il travaille en équipe, et avec d'autres, des biophysiciens pour la radiothérapie, etc. Et donc l'IA, évidemment, dans cet ensemble, dans ces réunions, aura une importance très importante, j'en dirais. Oui. C'est ce que vous nous dites. Et est-ce qu'il y a d'autres spécificités médicales, d'autres spécialités qui peuvent profiter? La chirurgie, par exemple, à votre avis?
Bien sûr, la chirurgie. Alors, il y a déjà robots, l'assistance, la chirurgie assistée par robot est introduite dans beaucoup de CHU. Mais l'IA peut aussi aider à poser des indications opératoires. Dans certains cas, je pense à une étude qui a été faite pour la chirurgie de prothèses de hanche pour remplacer une hanche arthrosique. En intégrant certains éléments, elle aide à poser l'indication de la prothèse au bon moment et pour la bonne personne.
C'est au moment où il faut.
Au moment où il faut. Donc, il y a des applications de ce type-là qui se multiplient. Je pense aussi qu'il y a une étude qui a été faite sur l'application pour l'exploration d'une infertilité de couple.
Ah, très bien.
Qui est un problème assez complexe, où il faut regarder un peu différentes choses. Donc voilà des champs d'application possibles.
Est-ce que pour venir à la chirurgie, il y a les chirurgies générales où le chirurgien faisait tout, du mou et du dur, comme on dit, c'est-à-dire le mou, c'est les viscères, les muscles, etc., le dur, c'était l'os. Bon, mais la chirurgie, c'est spécialisé. Maintenant, vous avez les chirurgiens de l'épaule, du petit doigt, de l'auriculaire, etc., etc. Alors, il y a eu une grande... On l'a vécu avec les premiers robots que j'étais à Kennedy en urologie, où la robotique est venue, donc ça apportait quelque chose d'extraordinaire parce que la vision du champ opératoire c'était pas mon domaine, mais j'ai discuté avec les spécialistes, donc ça s'est développé. Et donc il y a cette robotisation. Donc vous avez parlé de l'IA dans le contexte de poser le diagnostic, d'avancer ou de retarder, de prendre le bon moment. Est-ce que vous pensez que l'IA peut rentrer dans la robotique aussi?
Alors, il y a une autre indication, un autre champ d'application dans la chirurgie, c'est pour les chirurgies complexes. Alors, ça a été fait en urologie et en neurochirurgie. L'IA peut aider le chirurgien à préparer l'intervention. Avec les données de l'imagerie, elle fait une espèce de malade virtuel. sur lequel le chirurgien peut préparer l'intervention avant.
Oui, c'est
Les différentes séquences. Il y a c'est un double virage.
GPS de l'intervention, quoi. C'est-à-dire qu'on a
sauf que ça se prépare avant.
L'itinéraire, oui. De l'intervention.
Voilà, c'est ça. Hein, de commencer d'aborder, il vaut mieux aborder par cette façon-là. Commencer par
régler. C'est plus court, il n'y a pas de bouchon, etc. etc.
Voilà. Ah, donc, ça, c'est de l'assistance à l'intervention. Et bon, là, je pense que ça va s'appliquer dans beaucoup de chirurgies. Dans le domaine aussi de la cancérologie plus générale. Hein. Mais en tout cas, en urologie et en neurochirurgie, c'est déjà un gain réel. Hein.
Oui. Donc, on a parlé de la napate. Oui. Donc, il y a des spalliers. Alors, une question, parce que je viens de Paris, j'ai visité un musée de cire. Si vous allez à Paris et que vous n'avez pas peur des horreurs, il faut monter à l'hôpital Saint-Louis et il faut prévenir quand même et visiter le musée de cire de dermatologie du 19e siècle, c'est quand même extraordinaire, mais il ne faut pas être sensible quand même. Est-ce que vous pensez que d'un diagnostic visuel aussi, comme la dermatologie, oui. ça pourra jouer ?
Là, c'est de l'aide au diagnostic.
Voilà, parce qu'on a fait une émission sur justement la consultation en pharmacie, dans les cabines de consultation. Est-ce que vous pensez qu'avec des photos d'autres définitions, l'intelligence artificielle pourra
Une photo faite par un dermatologue au cabinet, soumis à l'intelligence artificielle, va l'aider à confirmer son orientation diagnostique.
Oui.
En dermato, la hantise, c'est le mélanome.
Voilà, c'est ça.
Et les mélanomes, c'est difficile à diagnostiquer simplement sur des images. L'IA peut réellement aider.
Et on peut le faire.
Autre application, la rétinopathie diabétique, sur une photo du fond d'œil.
C'est-à-dire qu'on peut faire une photo avec son portable, ou on fait une photo, et l'intelligence artificielle peut, peut justement faire un diagnostic. C'était important parce que je me suis trouvé au Vietnam confronté à une pathologie dermatologique. C'était pas évident. Et alors, bon, on a parlé des pathologies, tout ça, mais la recherche médicale, c'est important, ça nous intéresse parce que la recherche, on aimerait que ça débouche sur des trouvailles, si j'ose dire. Mais qu'apporte l'intelligence artificielle en recherche médicale ?
Alors là aussi, elle peut faire gagner beaucoup de temps. Pour le repérage de molécules qui peuvent être intéressantes pour l'application, trouver des indications thérapeutiques. Un exemple qu'on a dans la mise au point des vaccins contre le Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, l'intelligence artificielle a contribué à accélérer le processus. On n'a jamais mis au point aussi vite vaccins. Donc là, elle fait gagner du temps. Et on n'est qu'au début. Il y a un large champ qui s'ouvre, qui va faire gagner du temps.
Alors, je m'arrête sur
Le temps et diminuer les coûts également.
Ouais, je m'arrête sur un mot que vous venez de dire, c'est le temps. Je crois qu'il faut, vous allez critiquer ma réflexion, il faut voir plutôt l'intelligence artificielle comme un véhicule, comme une voiture qui nous permet d'aller plus vite, d'une manière confortable d'un point à un autre, et ce qui nous permet de moins nous fatiguer, de moins d'être plus sensible à d'autres choses, etc. Est-ce que cette image,
un gain de temps, on accélère les choses et on gagne en fiabilité,
en
sécurité.
L'intelligence artificielle, ça fait peur. Ça fait peur. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Est-ce que c'est cette vision du véhicule confortable
Du véhicule qui fait gagner du temps et qui apporte de la sécurité.
Voilà, du confort pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir avoir l'esprit plus libre pour réfléchir à autre chose.
Et pour s'occuper, dialoguer avec le malade.
Très bien. Alors, et les limites et les dangers de l'IA, quand même, il faut en parler, vous qui êtes...
Il faut avoir conscience que l'IA, elle peut aussi se tromper. Ça peut exister, elle n'est pas infaillible. Elle est tributaire aussi de toutes les données qu'on lui fait ingérer. Donc il faut que ces données
soient justes.
Il faut qu'elles soient les plus justes possibles. Donc ça, on est en train de s'améliorer. C'est tous les dossiers médicaux de patients qui ont été traités, qui sont bien sûr totalement anonymisés qui servent à faire progresser.
Quand on parle de dossier médical, c'est pas le dossier médical de Monsieur X.
Monsieur Lambda,
c'est la pathologie. Quoi. Je veux dire, c'est complètement. Que les gens soient rassurés. Votre dossier, votre histoire médicale, ne va pas rentrer dans la machine. C'est la pathologie. C'est important.
Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a des perspectives qu'on n'a pas évoqué durant cette émission avec l'intelligence artificielle.
Ben, on peut peut-être quand même dire les risques quand même.
Oui, les risques,
rapidement quand même. Bon, on ne remplacera pas le médecin, on va lui faire gagner du temps et dans le contexte de pénurie, ce n'est pas inintéressant. Peut-être on peut avoir quelques craintes sur certains emplois dans le paramédical, peut-être. Il faut en avoir conscience, donc des effectifs, même auprès des soignants, on craint beaucoup que les robots sociaux, par exemple, remplacent des soignants. Bon, je pense qu'on va être très, 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 très vigilant là-dessus. Les risques de dérive d'utilisation, et là, il faut être très vigilant. Il faut beaucoup de cadres, un cadre de...
Par exemple
Des repères éthiques. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut que, quand l'intelligence artificielle est utilisée en médecine, a priori, il faut que la personne soit informée.
C'est ça, il faut informer la personne.
Informer la personne, et puis il ne faut pas la laisser à la portée de n'importe qui.
Il faut que ce soit les médecins toujours, parce que les médecins, c'est pas une question de supériorité ou autre, c'est qu'ils ont des barrières et ils ont surtout des responsabilités pénales, civiles et déontologiques. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et par rapport à ce problème de responsabilité, un des champs éthiques qui se pose, c'est si la machine est défaillante et oriente vers un mauvais diagnostic, par exemple, qui est responsable?
Est-ce
que c'est le médecin qui a sollicité? Est-ce que c'est le constructeur des algorithmes?
Le logiciel?
Il y a encore des zones de flou. Mais les perspectives, c'est des gros progrès en médecine, et je pense en particulier en cancérologie.
D'accord, très bien.
Ah, là, il y aura des...
Eh bien, docteur Sobel, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre savoir et votre passion sur les nouveautés en médecine et les perspectives de l'intelligence artificielle. En particulier, merci infiniment à vous.
Merci à vous.
Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Et vous nous proposez alors...
Alors, c'est un livre c'est fait par un médecin qui est un des spécialistes français de l'IA appliquée à la médecine, qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre, et il s'appelle ChatGPT va nous rendre immortels. Il va bien au-delà de ce que j'ai évoqué des applications à la médecine, ça ouvre des perspectives qui, certaines, sont inquiétante quand même. J'avertis.
Mais ça peut être lu aussi.
Le livre est remarquable.
Il faut se rassurer quand même. On essaie de faire cette émission justement pour se rassurer et on vous remercie parce qu'en fait, ça a été rassurant et ça nous a bien éclairé sur ce que peut être l'IA en médecine qui est positive. Alors, je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Toujours, je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.